Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Die Eisenfaust am Lanzenschaft, die Zügel in der Linken, so sprengt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken.
Bonjour à tous et on parle d'histoire avec un grand H aujourd'hui. On prend un peu de hauteur et de distance pour vous parler aussi d'histoires oubliées ou méconnues. Et on commencera ce périple en Allemagne avec l'ouverture l'été dernier d'un centre de documentation qui a longtemps fait polémique avant de voir le jour. Son nom, Suite, Expulsion, Réconciliation. On y parle de la migration forcée de 14 millions d'Allemands qui ont dû quitter des territoires conquis par le Troisième Reich et redistribués par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qui se doit d'être mise en parallèle avec les victimes de l'occupation allemande. À Berlin, Léo Brauer-Potier est allé le visiter.
Le centre est un bâtiment aux lignes claires dans le quartier de l'ancienne chancellerie du Troisième Reich. La rénovation et l'aménagement ont pris plusieurs années pour pouvoir exposer sur trois étages entiers toute l'histoire des expulsés allemands. Reinhild est assise sur un banc et fait une pause.
Cela va faire une heure et demie que je suis ici. Je ne suis pas sûre de tout visiter en deux heures ou dans une journée. Il y a beaucoup de choses à voir, à toucher, à lire et à écouter. C'est une exposition que je trouve très intéressante. Les différents aspects de la fuite et de l'expulsion sont bien représentés.
Flucht und Vertreibung, la fuite et l'expulsion sont les deux premiers mots qui accueillent le visiteur. Ils font référence aux 12,5 millions d'Allemands déplacés de force par la guerre et dans les années qui ont suivi le conflit. D'abord ceux qui ont fui l'avancée de l'armée rouge à partir de 1944, puis ceux qui ont été expulsés par la force à la suite de la conférence de Potsdam qui, en juillet 1945, acte le partage de l'Europe par les Alliés. Dr Gundula Bavendam est la directrice du centre.
Un article de la déclaration de Potsdam est consacré spécialement à la question de l'expulsion et détaille la procédure par État. Ça veut dire que chaque gouvernement était impliqué, par exemple les Britanniques, mais surtout les nouveaux gouvernements sous la coupe soviétique, comme la Pologne et la Tchécoslovaquie. Ils ont organisé cette expulsion par train entier et ça a duré des années.
Gundula Bavendam s'arrête un instant sur une pièce de l'exposition consacrée à l'expulsion. Un simple brassard, blanc et noir, frappé d'une lettre.
Au centre du brassard, vous voyez la lettre N, ce qui veut dire allemand en tchèque. Ça veut dire qu'à la fin de la guerre, beaucoup d'Allemands étaient encore présents en Tchécoslovaquie. Dans l'attente de leur expulsion prochaine, ils devaient porter ce brassard à chaque fois qu'ils sortaient dans la rue, afin que chacun puisse voir qu'ils étaient Allemands. La vie de ces gens a été difficile, leurs droits civiques leur ont été retirés, ce qui signifie qu'ils étaient considérés comme des citoyens de seconde classe, quand bien même ça faisait des décennies qu'ils vivaient sur place.
Il s'agit du point le plus critiqué du centre. Témoigner de la souffrance de ces Allemands, expulsés de force par les vainqueurs, amènerait-il à relativiser la barbarie nazie qui a amené la guerre, l'Holocauste et ses millions de victimes ? Il faut visiter le centre pour avoir la réponse. Car ce lieu parle de tous les Allemands, ceux qui ont quitté leur maison sous la pression des Soviétiques à la fin de la guerre, comme ceux qui ont, dès les années 1930, planifié l'occupation de l'Europe de l'Est et l'extermination de ses habitants.
Les mécanismes de discrimination établis par chaque gouvernement afin d'ostraciser un groupe, afin de le mettre à la marge, sont les mêmes que ceux qui ont été employés par les nazis. Sauf que l'idéologie nationale-socialiste était largement plus extrémiste. Les Allemands en Tchécoslovaquie n'ont jamais été ciblés pour être exterminés. On dira toujours qu'un génocide n'a rien à voir avec une expulsion. Et ça, on le souligne bien sûr à plusieurs reprises.
Les visiteurs du centre ont parfois une histoire personnelle qui rejoint la grande histoire, comme Jordan. Sa mère a fui l'armée rouge en 1944, elle vivait alors en Silésie, dans l'actuelle Pologne. Aujourd'hui, cet Allemand de 60 ans regarde avec inquiétude la situation politique dans cette partie de l'Europe.
Je pense qu'il faut apprendre à faire bon ménage avec nos voisins d'une manière ou d'une autre. Et quand je vois certains pays européens qui connaissent un regain de nationalisme, ça me préoccupe. C'est ce qui se passe actuellement en Pologne et en Hongrie qui ont été victimes de l'Allemagne nazie. Et ça m'inquiète.
Des récits de migration forcée, il est possible d'en déposer à la bibliothèque du centre. C'est là qu'ils sont collectés, classés et référencés afin de dresser un portrait général de l'Europe. Gundula Bavendam.
Fuite, expulsion et réconciliation sont au cœur de l'histoire des migrations forcées en Europe. Imaginez un instant le parcours d'un Allemand expulsé de Pologne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et en même temps l'expropriation pendant la guerre des Polonais qui vivaient au même endroit. C'est exactement l'histoire européenne. Le souci et les souvenirs ont été séparés par les États. Et réassocier toutes ces paroles indépendamment des nationalités concernées, c'est notre travail.
Un des étages du centre tente de faire le lien entre le passé et le présent. Ainsi, des dessins d'enfants syriens côtoient un jeu de cartes fabriqué par une jeune Allemande qui s'ennuyait dans l'interminable voyage en train qui l'emmenait loin de chez elle. On trouve aussi des téléphones portables de Rohingyas, des vélos russes qui ont servi à franchir la frontière finlandaise. Un choix qui interpelle, c'est fait pour, mais comme l'entrée est gratuite, chaque visiteur est invité à se faire sa propre idée.
C'était il y a 170 ans, l'Irlande, alors colonie britannique, voit ses cultures de pommes de terre anéanties par le mildiou. C'est la grande famine qui fait 1 million de morts et pousse à l'exil 2 millions d'Irlandais. Mais comment expliquer, interpréter cette immense tragédie? Aurait-elle pu être évitée? Certains n'hésitent pas aujourd'hui à donner à cet épisode une interprétation très politique. À Dublin, Emeline Vin.
Le long des quais de Dublin, le musée de l'émigration retrace 1500 ans de diaspora irlandaise. Carole, venue de Californie, fait partie de cette diaspora.
My maiden name is Dolan.
Mon nom de jeune fille, c'est Dolan. C'est bien irlandais. J'ai remonté les recensements aux États-Unis et les Dolan sont arrivés dans les années 50.
Les années 1850, c'est le pic de la famine en Irlande.
Ça a été la plus grande migration depuis l'île d'Irlande de l'histoire.
Nathan Mannion, conservateur du musée.
De 1845 à la fin de la famine, en 1855, 2 millions de personnes ont quitté l'île, en plus du million qui sont mortes.
À l'époque, l'Irlande est encore sous domination britannique. Ceux qui quittent l'île partent en majorité aux États-Unis, fraîchement indépendants, au Canada, un peu en Australie, pour fuir la pauvreté. Pour Kieran Reilly, chercheur à la Maynooth University et spécialiste du 19e siècle, l'Irlande de 1845 est l'un des endroits les plus dangereux sur Terre.
La société est au bord du gouffre quand le mildiou de la pomme de terre arrive à l'automne 1845. À cause d'une explosion démographique, il y a concurrence pour la terre. En plus de ça, les tensions politiques et religieuses ne cessent de grimper depuis les années 30 et 40.
Les Irlandais les plus pauvres ne mangent à l'époque que des pommes de terre qui poussent facilement et en grande quantité.
Entre 1700 et 1845, il y a 27 mauvaises récoltes. Les Irlandais sont habitués aux mauvaises récoltes. La différence en 1845, c'est que la récolte de 46 est mauvaise, puis celle de 48, 49, 50, 51 et 52.
La famine, définie par l'absence de nourriture de cause artificielle ou naturelle, et donc à l'origine biologique. Mais en Irlande, il n'est pas rare d'entendre les habitants accuser le gouvernement britannique d'avoir négligé sa population. Kieran Reilly.
Le gouvernement britannique met en place des comités locaux de secours. Il lance 2 autres programmes qui aident énormément. La soupe populaire, par exemple, qui aide des milliers de personnes quotidiennement, et des programmes d'emploi public. Tout cela change à l'été 1846. Le gouvernement britannique cesse tous ses travaux de soutien à cause de la crise financière que traverse alors la Grande-Bretagne. Il laisse la responsabilité aux bourgeois irlandais.
Leur engagement sera faible. Mais il y a pire, l'Irlande continue à produire de la viande, des céréales qu'elle exporte vers la Grande-Bretagne. De là à parler de génocide, certains Irlandais franchissent le pas. Pour les historiens et les chercheurs, c'est plus complexe.
Le gouvernement a dépensé des millions pour empêcher les morts. Ce n'est pas raccord avec la théorie d'un génocide prémédité. Oui, il y a eu de l'inaction. Oui, il y a eu une mauvaise gestion. Mais les propriétaires irlandais sont aussi responsables, ainsi que certains hommes et certaines femmes irlandaises. Beaucoup d'Irlandais ont profité de la famine. Ceux qui ont survécu n'étaient pas tous des nécessiteux en souffrance.
Et puis la famine a surtout tué les classes populaires et la notion de classe n'est pas incluse dans la définition de génocide. La famine, multifactorielle donc, a façonné l'Irlande moderne, devenue depuis indépendante. Nathan Mannion, du musée de l'émigration.
Sans ça, l'Irlande serait complètement différente, ne serait-ce que linguistiquement. À la veille de la famine, la majorité des Irlandais parlaient gaélique. Or, la famine a surtout touché les pauvres, qui ne parlaient que le gaélique. Ce sont surtout eux qui sont partis ou sont morts. Par conséquent, la langue gaélique a pâti de la famine.
Le gaélique est aujourd'hui en voie d'extinction. Les émigrants ont aussi massivement soutenu le mouvement indépendantiste. Autre conséquence notable, la présence irlandaise partout dans le monde.
Il y a plus de 70 millions de personnes d'origine irlandaise à travers le monde, une majorité dont les ancêtres ont émigré à cette période. Nous avons même un secrétaire d'État à la diaspora.
70 millions d'Irlandais à l'étranger, seulement 5 millions au pays. D'ailleurs, l'Irlande n'a atteint ce seuil des 5 millions qu'en avril 2020, pour la première fois depuis la famine.
E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa?
Deve salvare la mia isola.
Lei ha comprato un'isola?
No, l'ho fatta.
Questa è l'isola che ha costruito?
Sì.
Beaucoup d'Italiens ont découvert l'existence de cette île au travers d'une fiction sortie l'an dernier sur une grande plateforme télévisuelle. L'île des Roses, créée de toutes pièces au large des côtes adriatiques, a abrité en 1968 un projet aussi fou que contestataire, mais qui a vite inquiété les autorités, Cécile de Barge.
C'est une utopie faite de 400 mètres carrés d'acier et de métal au beau milieu de la mer Adriatique en face de Rimini, dans le centre de l'Italie. Le projet fou de l'ingénieur Giorgio Rossa, que beaucoup d'Italiens ont redécouvert grâce à un film diffusé récemment sur la plateforme Netflix. Grâce à une technique qu'il a mise au point, il commence dès 1964 les travaux d'une plateforme qui repose sur des colonnes d'acier posées au fond de la mer, en eau internationale, à 500 mètres des eaux italiennes et 12 km des côtes de Rimini. Entre-temps, le jeune ingénieur, révolutionnaire dans l'âme, rêve d'un endroit où vivre libre, sans se plier aux règles de l'État italien. La petite île artificielle devient son terrain de jeu et d'expérimentation. Le 1er mai 1968, la plateforme d'acier devient une république indépendante. Elle se nomme l'île des Roses, bat sa monnaie, s'invente un drapeau et choisit l'espéranto comme langue officielle. Tour à tour restaurant, boîte de nuit, refuge politique pour un exilé allemand, la petite île devient une véritable attraction touristique mais suscite aussi la peur du côté des autorités italiennes. L'utopie libertaire prend fin le 24 juillet 1968. Craignant que la micronation ne devienne une menace pour la stabilité du pays, les autorités italiennes prennent le pouvoir sur la plateforme qui sera finalement détruite l'année suivante. That it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is
Comment faire de l'histoire à l'aune des nouvelles interrogations sur la place de tous et toutes les oubliés, les femmes, les colonisés, les minorités sexuelles ou encore les nations oubliées. Et l'histoire doit se réinventer. C'est la thèse d'un ouvrage phare qui est sorti cet automne en Angleterre. Son titre, What is History? Qu'est-ce que l'histoire, tout simplement? Bonjour Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres.
Bonjour Frédéric.
Ce livre, c'est la suite d'un ouvrage de référence que tous les étudiants en sciences humaines connaissent très bien.
Oui, What is History, c'est un livre que tous les apprentis historiens sont appelés à lire à l'université. Il est basé sur une conférence donnée par l'historien aujourd'hui décédé, E.H. Carr, en 1961. Son postulat était déjà très controversé à l'époque. C'est que l'historien ne peut pas être 100% objectif. Même avec tous les efforts du monde, il sera toujours influencé par sa personnalité et l'époque dans laquelle il vit. La métaphore qu'il a choisie est utilisée plusieurs fois dans son ouvrage et dans le nouvel ouvrage publié le mois dernier. Les faits historiques sont comme des poissons au marché que l'historien ne peut que cuisiner à sa façon. What is History Now est donc un livre édité par son arrière-petite-fille, Helen Carr, et une autre historienne très populaire en Angleterre, Susanna Lipscombe.
Les deux historiennes partent du même postulat, mais l'insèrent dans les débats d'aujourd'hui.
Exactement. Dans l'introduction, elle s'attaque à l'expression « réécrire l'histoire » et pour elle, il faut réécrire l'histoire, c'est le travail même de l'historien. Sur le débat actuel selon lequel on effacerait l'histoire de l'Empire et du colonialisme en déplaçant des statues, elles disent au contraire que faire tomber une statue, c'est de l'histoire performative. On a le droit de changer d'avis, de ne plus vouloir glorifier un personnage en le statufiant. On pense bien sûr ici à la statue d'Edward Colston, le marchand d'esclaves, dont la statue a été déboulonnée à Bristol à l'été 2020 et qui est désormais exposée avec les dégâts qui lui ont été infligés dans un musée de la ville. Pour ces deux jeunes historiennes, revisiter l'Empire et le colonialisme, ce n'est pas l'effacer, c'est au contraire ajouter les éléments gênants, étoffer l'histoire. Oui, alors cela veut dire aborder les mêmes sujets, mais sous un autre angle, celui du colonisé plutôt que celui du colon, par exemple. Ce que certains appellent décoloniser l'histoire, elles appellent enrichir l'histoire. Il faut d'autant plus réécrire l'histoire de l'Empire et du colonialisme qu'on sait maintenant que des papiers ont été détruits ou emmenés à Londres pour y être cachés par l'administration britannique qui ne voulait pas que toute la lumière soit faite sur sa gestion au Kenya, par exemple. Avoir accès à certains de ces papiers invite évidemment à réécrire l'histoire, puisque de nouvelles données s'offrent à l'historien.
L'ouvrage va même plus loin, Marie, et appelle à recevoir l'histoire à l'aune des préoccupations d'aujourd'hui.
Oui, un chapitre s'appelle « Can and should we queer the past ?» C'est dur à traduire, hein, mais en gros, ça veut dire « Devrions-nous regarder l'histoire du point de vue de la communauté LGBTQ ?» La réponse est oui, parce qu'on a hétérosexualisé l'histoire, donc il faut rétablir un équilibre. Si on a des lettres d'amour de milliers de couples hétérosexuels depuis des siècles, c'est parce qu'elles n'ont pas été détruites, étant donné qu'elles n'étaient pas la preuve d'amour défendu, voire illégaux. L'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. Mais le mot « queer » est important parce que, outre LGBTQ, il veut aussi dire « étrange ». Et l'auteur de ce chapitre évoque par exemple le travail d'un historien sud-africain sur les « mind marriages », les arrangements romantiques de certains mineurs sud-africains au début du XXe siècle. Des jeunes hommes jouaient le rôle d'une épouse traditionnelle en termes de tâches ménagères, mais aussi de satisfaction sexuelle. On les appelait les « tinkankana ». Et ce n'était pas toujours de l'abus, car c'était un état de fait accepté. Ça n'empêchait pas ces jeunes hommes de mener une vie hétérosexuelle après. On parle de la fluidité des sexualités aujourd'hui comme de quelque chose de neuf, mais ça n'est pas forcément vrai.
Et dans ce cas, ce sont de nouvelles sources qui ont été découvertes, mais l'ouvrage insiste aussi sur l'importance de revenir sur des sources déjà exploitées.
Oui, parce qu'on l'a dit, l'historien donc cuisine ses sources pour les servir à sa manière. Alors, Susanna Lipscomb, par exemple, s'intéresse à l'histoire des femmes. Et là, tout est à relire. D'abord, parce que les anciennes sources étaient écrites par des hommes et souvent des religieux, les femmes n'avaient pas les moyens de nous laisser leurs paroles, sauf lors des comptes rendus des procès. Et là, c'est une vraie mine d'or pour l'historienne quand on lit à contre-courant « Against the Grain ». D'abord parce que si les sources judiciaires sont les plus importantes, on risque de voir l'histoire des femmes comme une histoire de la brutalité, une histoire de victimes et de criminels. L'intéressant, ce sont les mentions sans importance pour le procès, les tâches que la femme en question accomplissait, la position sociale qu'elle avait. Il ne faut pas non plus ne parler que des femmes sur lesquelles on a beaucoup de sources, car sinon on ne parlera que des femmes puissantes qu'on connaît déjà.
Et un dernier point rapide sur l'importance de l'histoire internationale.
Oui, c'est le premier essai du volume en fait, et qui résonne surtout dans un Royaume-Uni qui veut redessiner son rapport au monde depuis le Brexit. Peter Frankopan, l'auteur, veut insister sur le fait que la globalisation, la mondialisation, n'est pas aussi neuve qu'on le croit aujourd'hui. On a retrouvé des poterie nord-africaine vieille de 2000 ans, jusqu'en Écosse par exemple. Les changements climatiques ont déjà été à l'origine d'immenses migrations, la plus connue étant celle des Huns asiatiques, qui ont largement contribué à la fin de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle. Et puis aborder l'histoire avec une perspective internationale permet aussi de relativiser, de remettre en cause des soi-disant vérités historiques. Peter Frankopan rappelle par exemple que presque autant de soldats kazakhs sont morts en combattant le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale que le soldat britannique. Pour une nation qui rappelle encore régulièrement comment elle a, dit-elle, sauvé l'Europe du nazisme, ce n'est pas un détail.
Merci beaucoup Marie Billon. À Londres, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site à la rubrique podcast et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. À demain.